Bonjour Général François Lecointre.
Bonjour Monsieur.
Avec Christophe Boisbouvier, nous allons vous interroger ensemble ce matin. Une cérémonie d'hommage aux 13 soldats français morts lundi au Mali aura lieu lundi aux Invalides. Ce genre de cérémonie se répète malheureusement depuis quelques années. Est-ce que ces moments sont importants pour les militaires? Est-ce que c'est une occasion de renforcer le lien armée-nation dont vous craignez parfois qu'il ne soit un peu distant ou un peu superficiel?
Votre question contient beaucoup d'éléments auxquels il faut que je réponde. D'abord, ça arrive souvent ces dernières années. Ça arrive parce que l'armée française est engagée sur tous les théâtres. Et l'armée française est engagée sur tous les théâtres, bien sûr, parce que la situation géopolitique mondiale continue, me semble-t-il, de se dégrader. Et que la France est une nation qui assume ses responsabilités. Et donc qui continue à considérer qu'elle doit prendre une part dans la résolution de ces conflits ou dans leur maintien au plus bas niveau possible. Ensuite, tout ça ne peut se faire évidemment que si l'opinion publique française, que si la société française est d'accord avec cet engagement de la France. Et donc vous avez raison, c'est l'occasion de rappeler à nos concitoyens que ce sont leurs soldats qui sont engagés. Ce sont les meilleurs de leurs concitoyens qui portent leurs armes, les armes de la France, dans ces pays. Mais par ailleurs, vous avez raison aussi, c'est d'abord un recueillement entre frères d'armes, autour des familles. Et dans l'évocation de leur mémoire, et chaque soldat qui s'engage aussi en portant avec lui le poids des sacrifices de ses aînés.
Mais vous disiez il y a 48 heures chez nos confrères de France Inter, j'ai toujours la crainte d'une forme d'indifférence de la nation à l'égard de son armée. Qu'est-ce qui vous fait redouter ça ou qu'est-ce qui vous fait penser ça?
Ce qui me fait penser ça, c'est d'abord que l'armée est devenue professionnelle et que donc les gens peuvent considérer qu'ils ne risquent pas, que chacun des concitoyens ne risque pas de devoir un jour, par devoir, s'engager dans ces combats qui sont des combats durs. Et donc qu'ils peuvent entretenir une admiration, un intérêt pour les armées, mais sans que le risque de devoir soi-même être concerné ne les rappelle à cette solidarité indispensable avec leurs soldats. Et donc je pense qu'il faut absolument que nous passions de l'admiration, du respect, à une implication directe de chaque citoyen. Encore une fois, chacun de nous est responsable de l'acte que porte chacun de ces soldats qui est délégué pour porter sa force.
Christophe Boisbouvier.
Alors, sur le déroulé des faits, mon général, ce lundi dernier à 19h, vous avez dit mercredi qu'il s'agissait d'une collision accidentelle entre deux hélicoptères. Le groupe djihadiste EIGS a affirmé hier soir avoir causé cette collision. Nos hommes ont tiré en direction d'un appareil, le forçant à se retirer, et au final, cet appareil est entré en collision avec un autre hélicoptère, disent ces djihadistes.
Non, c'est absolument faux. Ce qui est vrai, mais on l'a dit, et dans l'état actuel des connaissances que l'on a, je ne m'aventurerai certainement pas au-delà. Il y a collision entre deux hélicoptères dans une opération de combat, je l'ai dit sur une autre radio hier, très complexe, qui nécessite dans une opération et dans une ambiance dure de concentration au combat, de mesure des risques, une très fine coordination. Et cette coordination qui est rendue complexe par le combat, qui fait partie même du combat, a entraîné cet accident. Mais pour autant, il n'y a pas eu de prise à partie par les djihadistes qui étaient poursuivis et qui étaient marqués d'une certaine manière au sol. Et il n'y a pas eu donc de retrait d'un appareil face à un tir de djihadistes. L'armée française dit la vérité. Je pense que c'est important de bien le mesurer. Elle dit la vérité d'abord parce que nous devons la vérité à nos soldats et nous devons la vérité aux familles de nos compagnons d'armes qui sont morts. Et donc, d'abord, il y a des enquêtes. Il y a des enquêtes techniques, il y a des enquêtes de commandement, il y a des enquêtes qui permettent de tirer les enseignements de ce combat et de cette période et de ce moment d'engagement opérationnel très intense. Ces enquêtes ne sont pas terminées. Les boîtes noires vont être exploitées pour avoir le détail précis de la manière dont nos soldats sont morts. En tout cas, ce dont je peux absolument témoigner aujourd'hui, et je ne m'aventurerai jamais à aller dire quelque chose qui ne soit pas strictement vrai, c'est qu'il n'y a pas eu de tir des djihadistes sur nos hélicoptères.
Aucun tir n'a pu faire dévier l'un des deux hélicoptères de sa trajectoire, par exemple.
Non, il n'y a pas eu de prise à partie des djihadistes sur nos hélicoptères.
Parmi les 13 victimes, il y avait 5 soldats du 4e régiment de chasseurs de Gap. Oui. Ils étaient donc dans l'hélicoptère de transport Cougar. Ils venaient d'être réembarqués ou ils étaient sur le point d'être débarqués?
Ni l'un ni l'autre. Quand on engage des hélicoptères de combat comme les Tigres, qui sont des hélicoptères puissamment armés mais qui ne comportent qu'un commandant de bord et un pilote, on engage en même temps que ces hélicoptères un hélicoptère de manœuvre qui est en mesure de déposer au sol un groupe de combat. De façon à, si jamais les deux hélicoptères d'attaque sont obligés de se poser au sol ou l'un de ces hélicoptères parce qu'il a un ennui mécanique ou parce qu'il est pris à partie par l'ennemi, immédiatement, le groupe de fantassins qui accompagne la patrouille puisse se poser au sol pour assurer la protection de l'hélicoptère et emmener son équipage. Donc ils ne venaient pas d'être embarqués, ils étaient dans l'action depuis le début, et ils ne venaient pas non plus d'être réembarqués ou d'être déposés.
C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas combattu dans les minutes précédentes un groupe djihadiste, ils n'étaient pas dans une situation critique nécessitant leur réembarquement.
Non, absolument pas.
Alors, mon général, on se demande tout de même, parce que des hélicoptères, des avions de chasse, c'est un déploiement de force important pour... intervenir contre un pick-up et quelques motos. Est-ce que les hommes sur place avaient des raisons de penser, des informations sur lesquelles un djihadiste de premier plan aurait pu se trouver dans cet équipage?
De manière générale, les moyens qui sont engagés sont importants parce que les armées essayent d'établir un rapport de force qui soit systématiquement favorable. Et d'ailleurs, le fait d'avoir un rapport de force favorable, de garantir la supériorité sur l'ennemi, permet aussi de mieux contrôler le déchaînement de force. C'est très important. Et vous savez que les armées françaises sont toujours très attentives à être les plus discriminantes possibles dans l'application des effets. Ça veut dire que...
La proportionnalité.
On respecte la proportionnalité, on ne tire pas sur des civils, on ne tire pas sur des enfants, et on est très attentif à avoir un tir qui soit le plus juste et le plus précis possible. Et par ailleurs, ce qu'on cherche à faire, c'est évidemment, au maximum, de capturer des gens qui vont nous donner du renseignement, de façon à pouvoir ensuite démanteler des réseaux complets de djihadistes. Donc, il n'est pas surprenant qu'on mette en place des moyens importants. Par ailleurs, ces moyens importants, ils sont engagés de façon séquencée. On peut faire intervenir ou préparer l'intervention d'avions qui sont dans un hippodrome en train d'être en attente d'intervention et par ailleurs conduire l'action au sol avec des commandos et l'action à proximité du sol avec des hélicoptères en attendant au fur et à mesure de l'évolution de la situation d'engager différents moyens. C'est ce qui s'est fait là. Par ailleurs, il est probable, compte tenu de la zone dans laquelle on était, que les djihadistes face auxquels nous étions avaient en particulier parmi eux des chefs assez importants.
Oui. Ça aurait pu éventuellement être Abdou Walid al-Sarawi, le chef de l'État islamique au Grand Sahara.
Je n'ai pas à m'exprimer sur ces types de renseignements et d'informations. Je préfère ne pas m'exprimer sur ce type d'information. Vous comprendrez bien que le secret couvre malgré tout une partie de nos engagements.
Alors c'était hier midi à l'Élysée. Emmanuel Macron a déclaré « Le contexte que nous sommes en train de vivre nous conduit aujourd'hui à regarder toutes les options stratégiques ». Toutes les options, ça veut dire quoi, mon général? Ça veut dire éventuellement un retrait de Barkhane du Sahel?
De mémoire, le président de la République a dit aussi qu'il souhaitait un engagement plus fort de nos alliés à nos côtés. Donc, je ne pense pas que dans l'esprit du président, ça veuille dire, puisqu'il demande à ce que nos alliés s'impliquent plus à nos côtés, qu'il envisage un retrait. En revanche, toutes les options, ça peut être tout le reste. Est-ce qu'on fait effort sur une zone en particulier, au profit d'un allié en particulier, ou d'un partenaire en particulier, comment est-ce qu'on balance les efforts entre l'accompagnement, la formation des armées partenaires et l'engagement direct contre les groupes terroristes, et puis comment est-ce qu'on balance les efforts entre une action spécifiquement militaire et une action plus diplomatique, ou une action de développement, ou une action de gouvernance? Quels sont les partenaires qui nous rejoignent? Toutes ces questions sont sur la table. C'est aussi, je pense, un appel fort à nos partenaires, qui doivent mesurer que leur implication est absolument indispensable à tous les niveaux dans la gestion de cette crise qui est extrêmement grave et qui peut emporter la survie d'un certain nombre d'États.
Mais vous, mon général, vous devez faire dans les prochaines semaines, à la demande du président, un rapport sur ce qu'il faut faire pour l'année 2020. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Un renforcement de Barkhane? 4500 hommes, ça ne suffit pas?
D'abord, je ne fais pas un rapport au président. Le président réunit toutes les semaines son conseil de défense. Et le président échange de façon très, très libre, très ouverte avec ses ministres en charge des sujets de sécurité, dont la ministre des Armées, évidemment, la première, et puis avec le chef militaire que je suis. Et avec le ministre des Affaires étrangères et avec, encore une fois, les experts ou les responsables français qui sont engagés dans les autres éléments qui permettent de résoudre ces crises-là. C'est donc bien ces échanges qui vont permettre d'établir plusieurs options. Ensuite, dire que ça doit être réglé par un renforcement ou pas, ça n'est pas ça la question. La question sera d'abord celle des modes d'action à retenir, encore une fois, de la balance des efforts, des zones dans lesquelles nous allons marquer ces efforts. Et ensuite, une fois qu'on aura établi...
Il faut changer les modes d'action? Moins d'hélicos, plus de drones?
Les modes d'action changent en permanence, monsieur. Ils changent en permanence. Je trouve étonnant, d'ailleurs, que les gens disent, je l'entends trop souvent, vos opérations s'éternisent, elles s'enlisent. Mais la réalité, c'est que nos soldats ont le sentiment que tous les 6 mois ou tous les ans, ils changent de mode d'action, ils changent de zone. Nous apportons des équipements différents. Vous savez, la ministre des Armées, elle a dit que nous allons engager des drones armés à partir de la fin de cette année sur le théâtre malien. Évidemment, cela implique un changement de mode d'action, un complément de capacité aux capacités que nous possédons déjà. Donc les armées évoluent en permanence pour faire face à un ennemi qui lui-même fait évoluer ses modes d'action. Moi, je pense que ce qui est très clair dans ce que dit le président de la République, c'est que nous devons assumer ce mouvement, mais que nous devons aussi avoir des partenaires. Je ne parle pas là des alliés, je parle des partenaires qui s'impliquent aussi clairement dans la résolution de ces crises, en prenant la charge de leurs responsabilités et la mesure de la gravité de la situation.
On va venir à ce point, mon général, mais Emmanuel Macron avait souhaité, lorsqu'il est arrivé à l'Élysée, dans la lutte contre le terrorisme, et notamment au Sahel, il avait souhaité des victoires. Quels sont aujourd'hui les résultats des opérations Serval, puis Barkhane? Qu'est-ce que vous pouvez mettre à l'actif de ces opérations? Parce que c'est vrai que là, on parle beaucoup de ce drame. Est-ce qu'il y a des victoires dont on ne parle pas?
Vous savez, la première fois que je suis arrivé à Bamako, c'était en 2012. En décembre 2012. Et puis ensuite, j'y suis resté les 7 premiers mois de l'année 2013. Je peux vous dire qu'on a emporté une énorme victoire. C'est que Bamako est toujours une ville dans laquelle règne l'état de droit. Le Mali est toujours un État démocratique. Et ne serait-ce que cela, je considère que c'est une victoire. Que Gao et Tombouctou ont été libérés, sont toujours des villes libres. C'est autant de victoires. Vous dire que nous avons restauré une paix définitive au Mali, évidemment, ça n'est pas vrai. Mais encore une fois, je pense que ces combats sont des combats longs, qui sont des combats par ailleurs qui nécessitent l'engagement dans des champs très différents et très complémentaires de l'action de très nombreux acteurs, à commencer par les pays concernés, et que nous n'aurons donc jamais un moment où nous dirons « ça y est, la paix est rétablie ».
Oui. Mon général, il y a une idée qui se répand au Sahel, une rumeur qui va grandissante, c'est que les Français ne sont pas là pour lutter contre le terrorisme, mais pour faire en quelque sorte main basse sur le pétrole, l'uranium et l'or dans le nord du Mali. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui le croient?
D'abord, je vous remercie de poser cette question, parce que si j'ai accepté de venir ce matin sur RFI, qui est... une radio que j'ai beaucoup écoutée dans tous les pays d'Afrique où j'ai été engagé, c'est parce que je ne supporte plus ces rumeurs et ces allégations et ces accusations mensongères qui font un mal absolument terrible et des ravages dans les opinions publiques des pays que nous venons aider. Le chef militaire que je suis et qui perd des hommes au combat vous dit que, évidemment, ça n'est pas le sens de notre action. Les armées françaises sont au Mali pour restaurer une situation dont dépend à la fois notre sécurité, à nous, Français, dont dépend la sécurité et la stabilité de l'Europe, parce que c'est la stabilité de toute l'Afrique sahélienne et de toute l'Afrique de l'Ouest à terminaison qui est en jeu aujourd'hui. Et donc c'est d'abord un impératif de sécurité qui nous fait agir, et encore une fois, je le disais à l'instant, un impératif qui me semble être ce qui sous-tend et oriente l'action de la France en permanence dans le monde, un impératif de respect de la dignité de l'homme et de respect de valeurs que porte la France. C'est le sens de notre engagement. C'est pour ça que je suis devenu militaire, c'est pour ça que nos soldats français sont fiers de porter leurs trois couleurs. Et quand j'entends des accusations comme celle-là, je trouve que c'est parfaitement injurieux et grave et dramatique. Donc je veux dire à tous les auditeurs des pays africains qui nous écoutent que les vraies raisons de nos engagements, elles sont là. Elles sont aussi peut-être d'une dette que nous avons contractée à leur égard le jour où ces Africains sont venus par milliers défendre notre sol en 14-18, en 39-45. Voilà où est ma dette et voilà où est mon souci. Mais imaginez que nous sommes là pour exploiter des richesses qui justifieraient simplement ou qui permettraient de compenser le coût de nos engagements, le coût humain, mais aussi le coût financier. Ça me paraît tellement dérisoire que voilà, je ne peux pas vous dire autre chose que ce que je vous réponds.
Ce que vous reproche un certain nombre de Maliens, et notamment d'hommes politiques maliens, c'est d'avoir commis peut-être une erreur tactique en 2013, au moment du lancement de l'opération Serval, c'est-à-dire d'être entré en connivence avec des groupes armés Touareg pour reconquérir le Nord Mali, et ce qui serait la raison pour laquelle, depuis donc bientôt 7 ans, Kidal, au Nord Mali, échappe à toute autorité de l'État.
Très honnêtement, la France, quand elle a lancé l'opération Serval, n'est entrée en connivence avec personne. Elle a conduit une opération militaire extrêmement audacieuse, vigoureuse, et qu'elle a conduite d'ailleurs seule avec ses alliés européens qui assuraient une partie importante de la logistique, et des alliés américains par ailleurs. Mais au sol, c'était les soldats français seuls. Il n'y avait aucune connivence. Il y avait une opération avec un raid blindé dans la profondeur. Imaginer qu'il y ait pu y avoir la moindre connivence me paraît dérisoire. Par ailleurs, la France a ensuite tout fait pour que soit mis en place l'accord de paix et de réconciliation. Et j'ai pas d'autre chose à dire. Il n'y a pas de connivence avec des groupes armés particuliers.
Vous parlez de l'arrivée, peut-être l'année prochaine, de forces spéciales européennes pour épauler à la fois l'armée malienne et Barkhane. Mais est-ce que ce n'est pas l'Arlésienne, et est-ce que vraiment d'autres pays européens ont des forces spéciales, à part les Britanniques bien sûr, capables d'opérer aux côtés de vous sur un terrain si difficile? Et la volonté.
Oui, bien sûr. Nous avons d'abord, dans les contacts que j'ai avec les autorités militaires de nos alliés européens, la conviction très forte parmi les chefs militaires que la situation nécessite un engagement plus important des Européens. C'est très clair. Et par ailleurs, évidemment, ces armées...
Quels Européens ?
Ça me gêne de les citer parce que les processus politiques qui permettront de décider de l'engagement des militaires sont une part de la souveraineté de ces nations ou de ces États membres de l'Union européenne. Et donc je ne vais pas m'engager à leur place. Mais beaucoup d'Européens, y compris de pays d'Europe du Nord, sont intéressés, d'Europe de l'Est, sont intéressés à s'engager à nos côtés dans ces opérations. Et j'espère qu'ils seront de plus en plus nombreux. Mais ils ont de vraies compétences, de vraies capacités. Et nous arriverons ensemble, je pense, à agréger nos efforts.
Et si les Européens ne viennent pas en appui, les Français vont partir, c'est ça ?
Je pense que ça n'est pas la question aujourd'hui. Les Français, de toute façon, avec les Européens dont je suis persuadé qu'ils viendront, vont éventuellement faire varianter leurs efforts, les concentrer dans des zones particulières. C'est ça la question.
On est arrivé au terme de cet entretien. Merci. Mon général, merci. Général François Lecointre.
Merci à vous. Et encore une fois, je pense que tous nos amis africains doivent comprendre le sens de l'engagement des armées françaises, qui est là pour défendre la dignité de l'homme et la démocratie.
Merci, bonne journée.
Merci beaucoup.